Bien, alors maintenant il faut qu'on parle. Oui, non mais attendez, oui, il faut qu'on parle sur des tas de choses. Il faut qu'on parle plus généralement, c'est pas seulement la dernière intervention qui se prête à grand débat. Nous avons une demi-heure, 40 minutes à peu près de débat. Et vous allez intervenir justement. Non mais vous voulez venir là à côté de moi. Non, venez là. Si, Pierre Bollet, venez là. Maintenant c'est la fin. C'est vous qui direz la bouche.
Je suis resté comme questionneur.
Ah bon, vous viendrez après avoir questionné. Bien. Alors on va essayer de trier des questions. Je vous prie pas, parce que c'est ma contrainte, hein. Ce n'est pas ma volonté disciplinaire, mais de faire vos questions assez brièvement. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut les faire innocentes, gentilles, mais les faire plutôt brièvement. Monsieur.
Oui. Je voudrais savoir quel concept est derrière le mot Éthiopie chrétien. Quelle est l'idéologie derrière pour un pays qui est multimillionnaire?
Alors, j'espère. C'est à vous.
C'est une vaste question. En fait, j'appelle l'Éthiopie chrétienne la royauté des hauts plateaux qui est chrétienne depuis le 4e siècle, après Jésus-Christ. Mais en fait, aujourd'hui, c'est l'Éthiopie dans ses frontières actuelles et largement étendue, mais l'Éthiopie historique chrétienne, c'est un noyau resserré sur les hauts plateaux de cette Éthiopie contemporaine. Parler de concept, j'aime pas trop parler de concept. Enfin, je ne sais pas ce que vous entendez par concept d'Éthiopie chrétienne.
C'est une idée que vous adorez.
Je parlais d'Éthiopie chrétienne à cause du roi chrétien d'Éthiopie. Voilà, le christianisme était la religion principale, la religion du pouvoir, hein, d'où le terme d'Éthiopie chrétienne, voilà.
Écoutez, je voudrais vous arrêter parce que de l'Éthiopie à la falaise de Gond, on va retrouver une partie des mêmes auteurs anthropologiques, parce que l'expédition d'Akar-Djibouti des années 30, dirigée par Marcel Griot, alors c'est pas la grande des Béguines, à longuement séjourné en Éthiopie. Et alors, pour vous répondre sur le christianisme éthiopien, les églises de Gondar ont tout de même été visitées par des anthropologues. Elles ont été dépouillées de leurs fresques originelles et remplacées par des fresques de circonstances pour ne pas laisser des murs blancs. Alors, on n'en finit pas, bien sûr, de la misère anthropologique, sinon on voit les choses de cette manière. Bon.
J'ai une remarque pour les deux interprétants. Pour Eric, puisque tu viens de nous exposer de façon très brillante. Et simplement une remarque sur cette affaire de la sagesse et de la quête de sagesse des Européens qui vont chez les Dogons. Je crois qu'il y a là un effet aussi de la patrimonialisation dont sont victimes ou bénéficiaires les Dogons, selon que l'on. Par exemple, le fait que le sud du pays de Gond maintenant est patrimoine de l'UNESCO, que l'UNESCO paye, je ne sais pas si c'est directement par des intermédiaires, en tout cas les gens pour qu'ils restent dans leur falaise pour entretenir une sorte de paysage comme ça qu'on voudrait immuable. Et donc la quête de la sagesse aussi me semble un peu. Dans cette perspective-là, d'une sorte de patrimonialisation des paysages et du savoir, immémorial. C'est pour ça que peut-être aussi tu trouves le Hogon à côté du Dalai Lama. Tout ça, c'est du patrimoine à conserver. Et alors pour Ménélique, oui, j'avais juste une petite question. C'est très frappant de voir que Ménélique a été représenté essentiellement de profil. Alors, je ne sais pas. Voilà. Donc, ce matin, on avait évoqué Laurent Joya. Madame Jerry a évoqué Laurent Joya qui n'avait pas voulu garder un portrait de lui qui était profil en disant très justement « Moi, j'ai deux yeux. » Ce qui renvoie d'ailleurs à beaucoup de choses. C'est pas une petite remarque en passant. Et donc, la question que je vous posais, c'est « Mais je n'y connais absolument rien. » C'était... dans les églises, des fresques dans les églises chrétiennes présentent des personnages saints, toujours de face, jamais de profil. Alors, est-ce que, c'était ma question, est-ce que Ménélique, dans ce cas-là, aurait voulu trancher par rapport dans une société, la société éthiopienne qui est une habitude très ancienne des images figuratives, est-ce qu'il aurait voulu trancher en se faisant représenter le profil avec ce qu'on voit dans les églises? J'en sais rien, c'est une question comme ça.
Non, en fait, il y a plein d'autres représentations du roi Ménélique, et celle-ci, celle-ci, c'était les deux seules de profil, mais en fait, j'ai juste choisi ce portrait parce que il m'a paru intéressant pour voir la diffusion d'une image à la fois en Occident et en Éthiopie. Mais en Éthiopie, dans les églises, j'ai trouvé une vingtaine d'églises où on trouve des représentations du souverain Ménélique en peinture réalisées à partir de photographies. Mais dans ce cas-là, effectivement, on ne trouve pas Ménélique de profil, mais Ménélique soit de face, soit de trois quarts face, justement à cause des conceptions iconographiques chrétiennes éthiopiennes qui veulent que seuls les méchants soient les impies, oui, les infidèles soient représentés de profil.
Donc c'est pas anodin cette affaire de figuration. Cette volonté de Ménélique de faire représenter un profil.
On peut vraiment distinguer cette image des images dessinées à l'intérieur des églises qui représentent le roi chrétien.
Oui, mais il faudrait prendre en considération les deux, je pense. Profil et face. Oui.
Et j'ai l'impression que le profil a été introduit. Je me demandais si le modèle original, c'était pas le portrait du souverain sur les thaleurs Marie-Thérèse ou qui était diffusé en Éthiopie à cette époque. Il y a aussi le roi Umberto en Érythrée, mais qui a fait frapper aussi son portrait, également de profil. Et je me demande si ces photographies à l'origine n'étaient pas pour copier ces représentations des souverains.
Mais c'est pas une rupture qui n'est pas avec une tradition iconographique. C'est une rupture voulue, sûrement en effet par Ménélique, mais qui n'est pas, qui à mon avis a un sens. Enfin,
qui rompt en tous les cas avec la tradition chrétienne. Oui, oui. Bien.
Si je peux me permettre d'intervenir. Moi, je n'ai pas l'impression que ça soit si important que ça. Parce que, déjà, d'après ce que tu as montré, c'est quand même au départ des photos faites par des étrangers. Alors, ce qui se passe, c'est qu'après, Ménélique accepte cette représentation de lui. Mais moi, je pense qu'on apporte trop d'importance à cette histoire de. On représente les méchants de profil pour pas avoir de l'intérieur, parce qu'en fait, on trouve plein d'exceptions dans la peinture antérieure. Donc, c'est vrai, mais il n'y a pas de règle absolue. Et puis, en plus, même dans l'histoire de l'Éthiopie chrétienne, on retrouvait déjà cette représentation, c'était les souverains absolutes sur leur monnaie. Donc je pense que ça, Ménélique, il le sait parfaitement, il veut tout à fait. Et à mon avis, c'est aussi pour ça qu'il accepte cette représentation de profil. D'ailleurs, c'est pour cette. Au départ, c'est, ça sert aussi pour les monnaies. Quoi.
Bien, il va falloir abandonner Ménélique.
Estelle, je voudrais abandonner Ménélique pour justement donc parler de ce qu'a dit Eric. Ce n'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt une réaction et une évocation de souvenirs communs. D'abord, je ne trouve pas ça si triste pour les Dogons, parce que je trouve que après tout, ils réussissent commercialement et ils exploitent un filon, ils ont bien le droit. Moi, je trouve ça surtout triste pour les Européens qui s'accrochent comme des fous à leurs stéréotypes et à leurs mythes. Et Eric sait bien que, d'une certaine façon, et on a pu avoir les uns et les autres les mêmes expériences vis-à-vis des Touaregs, qui sont dans le même système de représentation. Et que là aussi, alors là, c'est pas le, c'est, ce ne sont pas les sages, mais c'est les grands chevaliers purs, etc., du désert, ou même purs, qui fait qu'on arrive à des importants conciliaires. C'est-à-dire que les Touaregs utilisent ça aussi. Hein, et combien de copains que j'ai vu arriver en costard cravate ou en chemise ou quoi que ce soit, qui arrivent et qui me disent bon, je vais mettre mon chèche parce que comme ça on drague les nanas beaucoup plus facilement. Et ça marche très bien, je peux vous assurer. Bon. Par ailleurs, donc, Eric et moi avons eu l'expérience, c'est quand même assez intéressant, et peut-être qu'on va finir par en parler ensemble, questions qui ont été posées récemment par le musée du Quai Branly, c'est une histoire qui commence à se connaître, mais parce qu'on l'a déjà raconté, ou pour, peut-être que je ne sais pas s'ils vont le faire, hein. En tout cas, donc, l'ambassade de France, mandatée par le Quai Branly, nous a demandé, Eric et à moi, de produire des gens représentatifs des peuples premiers du Mali, c'est-à-dire des Dogons et des Touaregs. Et quand on a demandé pourquoi ils étaient particulièrement premiers par rapport aux autres, on a dit bah, parce que c'est comme ça, c'est eux les peuples premiers du Mali. Donc c'est quand même assez intéressant de voir à quel point même au plus haut niveau, hein, de, bon alors c'est l'élite politique, c'est pas forcément bande bref, mais en tout cas à quel niveau on s'accroche encore finalement à une représentation qui nous fait plaisir en Europe et qui n'est pas une représentation qui est simplement encore une fois un stéréotype.
Vous savez, les premiers sont les derniers qui révèlent les vieux stéréotypes discriminatoires.
Oui, tout à fait.
C'est pas. Et les derniers, c'est-à-dire tout, sont les premiers de ce qui révèle la légitimité de la domination. Voilà. Oui, il y a derrière ce mot, moi ce mot m'horripile, je vous dis net, derrière ce mot, il y a tout un jeu, n'est-ce pas ? Être premier, c'est en retard, hein, dans ce cas-là.
Oui, oui,
c'est pas du tout être celui qui... je t'ai niqué, je passe. Non, alors, je me donne la parole, mais juste un mot pour dire, à propos de, comment dire, de la tentation métaphysique des touristes, il y a tout de même cette espèce de commercialisation des méditations, des religiosités, des sagesses. Et elle est mondialisée, elle est globalisée. Alors les Dogons sont dans le paquet, mais ils ne sont pas les seuls. Et la dérive, elle vaut pour le rapport à toutes les civilisations différentes. Quand on est en déficit chez soi, on va chercher ailleurs. Alors, quand on ne trouve pas, parce que c'est toujours compliqué tout de même de trouver, ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande de l'intelligence, ça demande des choses comme ça. Alors, tout de suite, eh bien, on s'empare du premier sage qui est sous la main et on le fait parler. Et puis, voilà. C'est la falaise chez les Dogons, c'est la chambre meilleure. Oui, il y a quelque chose de cette sorte, vous comprenez. Et donc, je vous retrouverai là. Je dirais que les Dogons ne sont pas entièrement responsables de cette complaisance. Ils en usent et on leur a donné des tas de moyens. On leur a donné une bibliothèque pour nourrir cette complaisance. Oui. Bon, allez, d'autres questions par vous.
Qu'est-ce que c'est la biographie de ce faux Ogon? Parce qu'il me semble que même dans les temps anciens, on a eu des gens qui étaient en dehors, qui ont travaillé avec des chercheurs, les assistants qui étaient là, c'était des gens qui étaient à l'école, par exemple. Mais qu'est-ce que c'est la biographie de ce faux Ogon? Est-ce qu'il était toujours en place ou est-ce qu'il était à Bamako, quelque chose comme ça?
Non, c'est quelqu'un...
En fait, qui était relativement âgé. Non, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui c'est. Pourquoi lui personnellement? Je pense que c'était un acteur. C'est en Pays de Gaulle, encore une fois, il y a aussi l'image. Tout le monde est identique. C'est une société, etc. Non, il y a des gens qui se mettent en avant. Il y a des gens qui sont des conteurs nés. Là, lui, il est un faux Ogon né. Et je pense qu'il est. Il a été mandaté en partie par les gens, en partie. Mais c'est quelqu'un en fait qui vivait en plaine. Et qui chaque jour montait sur son on va au travail, il montait en haut de la terrasse de la falaise pour arriver, puisque en fait c'est les maisons qu'on voit c'est à la pique, enfin au sommet des éboulis. Et alors même quand les touristes le voyaient monter, Ah, il y a des photos sur le net où on le voit. Ah, regardez le Hogon qui monte dans le. En fait, il va prendre son travail pour les touristes. Alors, le problème, c'est qu'il y a des biographies de ce personnage qui se sont en partie reconstruites. Moi, j'ai trouvé, par exemple, il aurait été celui qui aurait été choisi comme Hogon si le village n'avait pas été entièrement islamisé. Pour moi, ça me paraît, par exemple, une telle affirmation me paraît très douteuse. Parce que comment dire qu'il aurait été choisi comme Hogon je pense qu'il y a des choses au niveau. Si ça se trouve, on va avoir une fausse biographie de ce Hogon qui va apparaître. Pour répondre aussi à la question, j'en profite. Moi, j'ai pas du tout une vision effectivement négative de ce phénomène. C'est plutôt dynamique. Je ne l'avais pas dit sur les images, mais il y a quelque chose que les touristes n'ont jamais noté, mais moi qui me frappe dans l'image de ce faux Hogon, les touristes y voient la sagesse. Moi, j'y vois à chaque fois un sourire un peu narquois de Udi qui a l'air de s'amuser énormément. Moi, c'est ça, c'est l'image que je retiendrai plutôt que l'image de la sagesse. Ceci dit, en fait, les Dogons, notamment AND, sont autant les bénéficiaires que les victimes de ce phénomène, parce que le tourisme, en fait, implique ensuite des projets de développement anarchique, parce que les touristes séduits par ND vont se mettre à vouloir faire des projets de développement partout, n'importe comment, n'importe où, et à tout vouloir donner de l'argent. Et ND est devenu un village d'assistés, dans une relation quasiment d'assistanat et de paternalisme, du coup, entre les touristes qui sont séduits par ceci et qui veulent construire leur machin dans le truc. Il y a une relation malsaine, du coup, qui, malgré tout, s'établit et dont, à mon avis, ND en pâtit plutôt qu'elle n'en profite.
Bien. Et Claude Hélène.
À propos des portraits de Ménélique, le lien avec le prestige de l'Éthiopie dans tout le continent africain m'a paru assez évident. Ces églises éthiopiennes du sud de l'Afrique avaient leur propre clergé, avaient pris leur indépendance vis-à-vis des églises protestantes dont elles étaient issues, américaines en particulier. Et ce qui m'a frappé moi dans le portrait, c'est le fait que ça ne reproduisait absolument pas l'allure d'un souverain européen. Il y a un affranchissement remarquable par rapport à l'aspect que présentent les souverains européens. Et alors il y a ce tissu blanc, moi, qui m'a tout à fait intéressée, qui est noué derrière le cou. Je ne sais pas s'il a un nom particulier, mais il symbolise aussi cet affranchissement par rapport au modèle européen. Et l'Éthiopie, le mot d'Éthiopie a eu ce contenu. C'est l'indépendance, c'est le pays qui a résisté à la conquête. Voilà. J'aurais voulu quelques précisions sur cette coiffure qu'on retrouve ensuite dans les générations récentes. Là,
effectivement, le souverain est habillé assez simplement parce qu'il y a juste ce foulard blanc et puis cette cape noire.
Blanc, on le retrouve chez les musiciens du 21e siècle.
En Éthiopie, ça s'appelait une chache et c'était un attribut des dignitaires, apparemment depuis l'époque moderne. Et seul le souverain et les grands dignitaires aussi à cette époque portaient ce foulard. C'était un attribut du pouvoir, comme la cape, comme la cape noire qui était.
Les portraits de souverains qu'on a vus précédemment,
avec des
êtres les pauvres chefs et les costumes.
Nous, ça ne nous semble pas, peut-être, mais en Éthiopie, en tous les cas, si, parce que c'était des attributs du pouvoir.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que ce portrait a été diffusé très très largement, ouais. Et qu'il a véhiculé une image qui était non conforme du tout au modèle européen.
Mais les profils qui ont été diffusés par les timbres, les pièces de monnaie, les gravures, sur ces profils, en fait, on a dessiné la couronne. Et on a dessiné aussi... Ouais, par-dessus, on l'a dessiné par-dessus avec la croix aussi. Et je crois le souverain avait quelques colliers, mais sur les pièces de monnaie, on a mis aussi en évidence une croix qui n'apparaît pas sur la photographie originale. Donc, quand même, pour la diffusion, on a modifié l'image.
Oui. Juste pour dire que ce mot chef, c'est le même mot que chéchia. Donc, dans le monde musulman, c'est un mot qui est très diffusé, je crois.
Non, ça ne correspond pas à la même chose. Le chef reste encore aujourd'hui c'est plutôt ce que j'ai montré, c'est le chapeau rouge qui est produit à Tunis. Mais le terme du chef serait resté pour, par exemple, au Maroc, le tissu qu'on met autour du
chef. Le Marex, ce n'est pas le même sens qu'en français.
Attendez une seconde, il y a toute une série de questions en attente. Vous, s'il vous plaît.
Je vais revenir au bon deux choses. La première, c'est ce faux au bon, je trouve ça génial, évidemment. Ça me rappelle les acteurs qui ont mis le masque de Mickey dans Disneyland, par certains côtés. Et je voudrais savoir si le fait de bénéficier de cette espèce d'investiture spirituelle, touristique, tout ce qu'on veut, lui a permis ou pas de réclamer un type de pouvoir, disons, temporel, dans le cadre de sa communauté, dans le cadre de la communauté dans laquelle il vit ou pas. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a eu un genre de boucle de bouclé par rapport à ça. Deuxièmement, je repense aux deux premières photos des Hurons, celle du militaire français et celle de l'écrivain américain. J'ai un peu l'impression que tout descend de là, comme vous avez pu le montrer à un certain moment. Et donc, de ce fait-là, je voulais savoir, c'est quand même plus simple pour un militaire français dans une position coloniale, quand il a quelqu'un de lui qui visiblement représente quelque chose, d'imaginer qu'il représente une autorité, et donc de vouloir le portraiturer comme ça, tandis qu'un écrivain, fût-il américain ou pas, mais inscrit dans le cadre surtout des surréalistes apparemment, c'est quand même beaucoup plus parlant pour lui d'essayer de le montrer comme étant porteur d'un savoir, d'une histoire, etc. Surtout évidemment dans le cadre du Paris de l'époque, si je puis dire.
Oui, pour répondre à la première question, non, je ne crois pas qu'il ait pu convertir en fait sa notoriété internationale, ce faucon, en pouvoir, en prestige peut-être, mais pas localement en pouvoir. Non, parce que il en tire lui-même un bénéfice, et pour tout le monde, ce n'est qu'un comédien. Ce n'est qu'un comédien, comme un guide qui guide les touristes, est un guide qui tire parti des touristes. Donc je ne crois pas qu'il y ait il y a peut-être de la jalousie, mais il n'en tire aucun bénéfice en termes de pouvoir à l'intérieur de sa communauté. Pour votre deuxième remarque, je suis tout à fait d'accord. C'est évident que c'est en fonction des positions voyageurs. Fasciné par la magie lui, Desplat n'était pas administrateur colonial, mais il arrivait en tant que militaire avec effectivement toute la vision qu'il avait de l'autorité, de ses chefs, etc. Ce que je voudrais rajouter, c'est que je ne l'ai pas développé ici, c'est que non seulement c'est qu'à chaque fois, en fait, je suis persuadé que les Hogons qui posent réagissent en fait dans leur pose à l'image que les photographes cherchent à prendre d'eux. Je suis persuadé, mais je ne peux pas le prouver, c'est pour ça que je n'en avais pas parlé aussi, je suis persuadé que par exemple le Hogon de Bancas s'est levé, alors que d'habitude il est assis, s'est levé pour paraître encore plus majestueux, plus dominant, s'est levé pour poser sur sa terrasse quand Desplagnes apparaît, parce que, en fait, c'est un double regard. Le Hogon voit bien que Desplagnes aussi est un militaire avec une autorité, etc. Donc, comme si, en fait, chacun reconnaissait l'autre, effectivement. Et du coup, agissait en conséquence.
Et merci. Je voudrais poser une question à l'exposant sur le Hogon. J'aimerais savoir si lorsque vous avez été justement dans ce pays, le Hogon, vous avez été initié au savoir des Hogons.
Première question. J'ai été initié à la guerre de Nîmes, mais ça s'arrête là. Non, il n'y a pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire, l'initiation, être initié à quoi.
Est-ce que je peux terminer?
Oui.
Parce que vous avez dit vous-même, ils disposent d'une certaine sagesse. Ils ont un certain savoir. Oui. Vous l'avez dit dans votre exposé, je vous ai suivi.
Oui.
Ce qui suppose que quelque part, il y a une connaissance qui est transmise à un moment donné.
Oui. Bon.
Alors, puisque vous parlez du Hogon, pour le tester, si vous avez été sur le terrain, vous aurez dû quand même lui poser des questions pour savoir si le savoir que vous avez pu obtenir ou recevoir les véritables Hogon, peut-il, le comparatif à ce faux Hogon, pour qu'il soit qualifié de faux Hogon, attesté ou non?
Non, mais le Hogon n'est absolument pas, c'est ça, c'est là toute la fausseté, le Hogon n'est absolument pas dépositaire d'un savoir. Lui, le Hogon, il incarne le pouvoir, il est muet la plupart du temps. C'est ça le plus extraordinaire dans l'histoire, c'est qu'on en fait quelqu'un qui va raconter des histoires, etc. Le Hogon, il est muet. Moi, je me suis intéressé au rite d'investiture d'un Hogon, le Hogon de Nomori, dont on voit la photo ici. En fait, pendant 10 jours, il ne dit pas un mot. Il ne dit pas un mot pendant toute la durée. Il se contente de frapper sa cloche que vous avez vue sur la photo. Même pour dire merci, il ne peut pas dire merci, il frappe sa cloche. Ce sont les autres villageois, pendant toute la nuit qui précède son intronisation, qui lui adressent des récits. C'est dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on lui adresse des leçons politiques à travers des mythes de fondation et qui rappellent les alliances politiques passées entre les différents groupes qui vont se réunir. Et donc, le Hogon, lui, est encore invisible, mais il a portée de voix, et il entend les récits qu'on récite pour lui, juste avant la nuit qui précède son intronisation. Donc, en fait, la connaissance... est-ce que j'ai été initié à cette connaissance? Mais tout le monde est initié. Cette connaissance, par exemple, qui est énoncée dans la nuit qui précède l'intronisation du Hogon, elle est publique. Tout le monde peut y assister, y compris les femmes. Et donc pour moi, ce n'est pas, par exemple, et ce sont des mythes, les porte-paroles de toutes les composantes de la société, de tous les villages sont là, sont réunis pour réciter leur mythe fondateur, etc. Mais c'est public, il n'y a pas d'initiation. Et le Hogon ne raconte jamais aucune histoire, ne raconte jamais et d'ailleurs, Germaine Guéterlin et Griol n'ont jamais été prendre leurs informations mythologiques, etc., auprès du Hogon.
Donc je vous ai mal compris, parce que je vous ai entendu parler de savoir...
Non, c'était l'image... Oui, je me suis sans doute fait mal comprendre. Non, ce que je parlais, c'était l'image que les Occidentaux ont, en fait, du Hogon, de quelqu'un qui est dépositaire d'un savoir... Alors que, en fait, ce savoir, en fait, c'est un personnage sacré. Il y a des gens qui ont des connaissances, bien sûr, en pays d'Hogon comme ailleurs, mais en fait, les dépositaires du savoir, ils se trouvent ailleurs. Y compris dans les chefs de lignage, sont censés être les dépositaires, effectivement, du savoir de leur lignage, mais pas l'Hogon, justement. Et c'est justement lui à qui on va attribuer le savoir, alors que ce sont d'autres personnes qui l'ont.
Une dernière question.
Juste à ce propos, est-ce que Rio l'a fait passer au côté Béli pour un Hogon?
Ah non, jamais. Non, mais Rio et Guéterlin n'ont jamais fait passer l'Hogon pour un grand sage ou un grand initié, dépositaire d'un savoir.
Un peu au côté Béli, vous avez dit que c'était un Hogon.
Ah oui, non. Non, c'était, en fait, alors, c'est pour la petite histoire incroyable, c'est que Seabrook, dans son bouquin, consacre deux chapitres, l'un au Mondarou et l'autre à Ogotemeli. Mais sauf qu'il présente Ogotemeli comme un grand sorcier qui qui, parce qu'il est encore, il n'est pas encore aveugle à cette époque quand il rencontre Sibrouk, il est responsable d'un hôtel qui est relativement puissant, et Sibrouk, qui est fasciné par la magie, etc., voit en lui le, je reprends son terme, le sorcier-chef de Sangha. Et ce n'est que 20 ans plus tard qu'il deviendra l'icône du grand sage et du philosophe. Alors que 20 ans plus tôt, il représente aux yeux de Sibrouk l'image du sorcier puissant possédant un pouvoir occulte extrêmement important et qui est craint par les autres.
Merci. Je crois qu'il va falloir arrêter la beau discussion et puis je vais vous dire deux, trois mots parce que je suis venu pour parler un peu, mais ça sera très bref. Ça sera du genre dans le genre texto. Et puis, simplement ceci, le thème m'a passionné. Et ce à quoi j'ai pu assister m'a enseigné et m'a passionné et a donné lieu à un débat qui a été très utile, puisque m'a fait éclaircir un certain nombre de choses. Si j'avais eu à intervenir, j'aurais peut-être porté aussi l'assistance sur les pouvoirs, comment dire, d'avant le façonnage colonial, les pouvoirs qui sont issus d'une histoire africaine et non d'une histoire européo-africaine ou africano-occidentale. Et à ce moment-là, c'est tout autre chose, c'est un univers, alors là, il ne suffisait pas d'un colloque, c'est tout un monde qu'a. Ici, je profite de l'occasion pour réaffirmer ma foi. Je suis persuadé que l'Afrique, dans sa longue histoire proprement africaine, a expérimenté des formes de pouvoir très diverses, infiniment plus diverses peut-être que celles que l'Occident a éprouvées. Il y a, je ne sais pas, de la bande à l'Empire, en passant par toute une série de réalisations, il y a une fascinante expérience politique que la tragédie présente peut faire oublier ou au contraire badigeonner en noir, comme s'il ne s'était rien passé avant et qu'il n'y avait que du mauvais aujourd'hui. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est peut-être de rappeler que dans cette Afrique-là, celle de la longue histoire, de l'histoire proprement africaine, enfin si on peut dire, car l'Afrique est en rapport avec l'extérieur, c'est pas un isolat, c'est pas un continent séparé, n'est-ce pas ? Dans cette période d'avant la colonisation, les moyens de faire image étaient foisonnants. Tout pouvait servir à construire de l'image, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas besoin ni de la gravure, ni de la photographie, ni de quoi que ce soit. De cette sorte, il y avait les métaux, le bois, la pierre, et l'or en particulier. Il y avait la possibilité de créer des images de toutes sortes, dès qui sont figuratives et dès qui ne le sont pas, pour employer des catégories un peu sommaires de l'esthétique d'aujourd'hui. Et puis, ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a pas de recherche. On a parlé de Ménélique. Sérieusement, longtemps, hein. Il n'y a pas de recherche dans cette histoire du politique africain antérieur à la colonisation. Il n'y a pas de recherche de ressemblance. Je n'en donnerai qu'un exemple. Les statues royales des Koubas sont célèbres. Hein. On fait un coup quand on a une statue royale Kouba. C'est vrai qu'elle doit être dans la plupart, maintenant, dans la plupart des musées. On a pensé qu'elle représente un personnage royal assis. On a pensé au début. La première de ces statues, c'est celle de Chamba, qui est très célèbre, on la voit partout dans les manuels ou dans les albums qui traitent des arts africains. On a pensé que c'était une sorte de portrait. Non, il n'y a nulle part, pas même chez les Bamouns, hein, de vrais portraits. En réalité, ces statues royales, elles n'illustrent pas un personnage, elles illustrent la royauté. Elles disent ce qu'est la royauté. Ce qui est autre chose que de donner une sorte d'image comme cela d'un souverain. Alors ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut avoir présent à l'esprit. Et puis, juste un dernier mot, avant de céder la parole à Pierre. Je trouve que pour la période contemporaine, la période moderne, Il y a des matériaux autres que ceux qui ont été évoqués, mais je n'ai pas participé aux séances précédentes. Il y a des matériaux autres que ceux qui ont été évoqués qui auraient pu être utilisés. Moi, je suis très frappé par l'usage, disons, de ce qui rappelle la bande dessinée, le manga, des choses comme ça. Lorsque j'étais au Togo, il y a quelques années, il y avait encore Iyadema. Iyadema était maréchal, Dieu, père de la patrie, et tout ce qu'on veut. C'est pas miraculé aussi, puisqu'il avait eu un accident d'aviation et qu'il en était sorti sur ses jambes. Il y avait un album dessiné qui était la vie de Iyadema, qui était présenté comme les petits catéchismes d'autrefois où Dieu apparaissait dans des façons absolument invraisemblables et qui n'ont pas de sens théologique. Il y avait donc cette utilisation de l'image, et de l'image moderne tout de même, n'est-ce pas, pour produire une sorte d'éloge permanent du souverain. Maintenant, si on, toujours dans la même veine, si on va chercher ce qui se dit du côté de la République démocratique du Congo, Kinshasa, par ces procédés-là, par les procédés de la peinture populaire, alors on trouve une explosion, d'imagerie du pouvoir moderne qui est considérable, n'est-ce pas ? Soit le pouvoir moderne qui naît à partir d'un martyr, cet album, les albums consacrés à Patrice Lumumba, soit le pouvoir moderne tel qu'il s'est fait à partir de Mobutu, à partir de Kabila père, pas Kabila fils actuel, et ces albums, ces foisonnements, ces peintures que l'on trouve partout, n'est-ce pas, sont des illustrations, alors étonnantes, de la façon dont on le voit le pouvoir, dont on le moque, mais dont on l'accepte aussi. Et je crois qu'il y a là des sources d'interrogation pour une anthropologie politique de l'actuel, et notamment une anthropologie de l'État actuel, avec ses péripéties et les rejets qu'il peut provoquer, ou les moqueries et les refus qu'il entretient. Je crois qu'il y a là une source importante. Voilà, quelques suggestions comme cela. Il y a un livre d'un collègue qui enseigne à l'université Laval au Québec. Il y a un livre, plusieurs livres de lui, qui concernent les arts, la peinture dans la République populaire démocratique du Congo. C'est les livres de Bogumil. Alors, bon, il est québécois, mais il est polonais d'origine, je n'y arriverai pas. Voilà, répétez-le bien. Voilà, il a tout. Et il y a notamment un livre récemment paru chez Gallimard qui s'appelle Mamiwata. C'est l'une des figures parce que c'est la sirène, la séduction et les dangers de la séduction. Mais il y a, par ailleurs, des chapitres, des parties de ce livre entièrement consacrées aux manifestations du pouvoir et notamment aux martyrs de Lumumba. Voilà ce que je voulais vous suggérer, c'est mon petit apport à ces deux jours de réunion qui m'ont semblé bien fructueuses.
Bien, merci Georges Ballandier, monsieur le président de séance. Après vos paroles, je ne risque pas de concurrencer, je vais faire simplement le générique de fin. D'abord remerciant les gens qui nous ont aidés, l'Université Paris 1 et son école doctorale, l'Agence universitaire de la francophonie et le labo dans lequel est organisé ce colloque, le CEMAP, le Centre d'études des mondes africains, dont je rappelle, parce que quand même il n'est pas très vieux encore, vu qu'il est né en janvier, c'est encore un gros bébé, un très gros bébé, mais un bébé, pour ceux qui ne connaissent pas, que c'est le Centre d'études des mondes africains qui a une équipe à Aix, une équipe à Ivry et une équipe donc à Paris. Mais alors, remercier donc l'AUF, Paris 1, le CEMAF, etc., je pense que c'est un peu réducteur et qu'en réalité, il faudrait surtout remercier les vrais organisateurs de ce colloque, c'est-à-dire Camille Lefebvre, Estelle Seuillet et Mohamed Waldi. Je pense que... Je pense que ces trois organisateurs représentent vraiment toute l'importance pour un labo, du dynamisme des étudiants, du fait qu'ils sont un des moteurs de ses recherches, certainement aussi un des viviers de son avenir. Donc je voudrais les remercier chaleureusement pour leur initiative, particulièrement saluer l'extrême efficacité de leur organisation, mais surtout aussi la qualité de leurs interventions et de celles qu'ils ont su réunir. Et je remercie bien sûr ces trois organisateurs d'avoir réussi à convaincre Georges Palandier de présider nos travaux, et je le remercie aussi vivement bien sûr de nous avoir fait l'honneur d'être parmi nous. Merci donc à tous. Et je crois que les trois organisateurs nous invitent à un cocktail de clôture maintenant, ce qui est vraiment formidable.